Voilà, toujours un mélange de joie et d'appréhension quand on se présente devant une assemblée pour un enseignement. Et bah, je pense que la joie l'emporte. J'ai été invité cet automne pour la retraite des, comment on dit, des plein temps, c'est ça? Voilà. Et j'avais trois interventions aussi. Et une des interventions abordait un peu ce sujet. Et Isabelle Courret m'a demandé de venir traiter ce sujet. Elle a pensé important et utile. Tu y étais, Élie? Tu n'y étais pas, hein? Cet automne. Mais cet automne dernier, il y a un an. Ah, voilà. Je comprends. Oui, oui, oui. Le papa de Pierre Barito aussi était décédé au même moment. Et pour cette raison, Pierre Barito n'était pas là non plus. Alors, j'enverrai à Élie mes notes complètes à l'issue du week-end. Donc, si vous aimez prendre des notes, c'est pas la peine de vous éreinter à prendre plein de notes. J'enverrai mes notes complètes. Pardon ? Et voilà, pensez plutôt à des points sur lesquels vous aimeriez que nous revenions ensemble, parce que je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on ait le temps d'échanger ensemble sur un sujet comme cela, bien sûr. Hein. Voilà. Donc le thème global pour ce week-end, c'est le lien, on pourrait dire, entre la maison et l'église. Il y a un lien entre la maison et l'église, entre l'église et la maison. Voilà ce que je vais démontrer. D'une manière, je pense, j'espère, simple et pratique, avec beaucoup d'interactions dans les deux sens. Et cet après-midi, j'ai intitulé mon exposé « La maison comme une petite église ». Donc, gérer la maison de telle sorte que Dieu y soit honoré, de telle sorte qu'on cherche dans la maison, à titre personnel, bien sûr, ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu. Alors, le premier point que je vais pointer, premier aspect que je veux pointer est celui-ci. La première habitation que Dieu cherche, c'est quand même notre cœur. Donc, si vous voulez, voilà, le cœur, la maison et l'église, dans ce sens-là. Et là, je cite une parole vraiment fondatrice. Dans la révélation biblique, c'est le fameux Shema Israël, Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'Éternel un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. Donc voilà une parole qui invite le croyant à mettre Dieu en relation avec la vie dans son intégrité, ou dans son intégralité plutôt. Voilà. Le cœur et la maison sont liés. Ces commandements seront dans ton cœur, tu en parleras dans ta maison, mais j'ai envie de dire que le cœur vient en premier. Le cœur et la maison sont liés, mais le cœur vient en premier. Dans ce passage, il n'est pas question de tabernacle, de synagogue, de temple ou d'église. Il est question du cœur et de la maison, et puis aussi quand tu partiras en voyage, c'est-à-dire partout ailleurs. Les commandements dont parle Moïse dans ce passage ne sont pas seulement des recommandations, hein, de simples consignes. Ce sont des paroles d'alliance, c'est-à-dire des paroles qui lient Dieu à son peuple et qui lient le peuple à son Dieu. C'est pourquoi il faut les écouter, il faut les retenir, mais il faut les garder, il faut les recevoir, elles doivent être gravées quelque part, comme des paroles d'alliance. Voilà. Et après avoir donné ces commandements à Moïse, eh bien, Dieu les grave sur les tables de la loi, et ces tables seront placées dans un sanctuaire, et Dieu dit « j'habiterai au milieu d'eux ». Et donc, on pourrait dire que Dieu cherche à habiter au milieu de son peuple, voilà, pas seulement à survoler comme ça, comme l'esprit au début de la création qui plane au-dessus des eaux. Non, Dieu veut habiter au milieu d'un peuple, pour pouvoir habiter au milieu, sur cette terre sur laquelle il n'est pas évident que Dieu réside quand même. Il n'est pas évident que Dieu réside sur cette terre. Et pour cela, et vous le savez, il met un peuple à part. Et à ce peuple, il parle du cœur et puis de la maison. Le fait que Dieu désire se tenir proche de son peuple, tout en étant un Dieu saint, explique, me semble-t-il, tout au long de l'Écriture, tout ce que nous voyons rappelé en termes d'amour, de patience, de miséricorde de la part de Dieu. Voilà, il revient à son peuple autant qu'il le faut, n'est-ce pas? Il le prépare avec précision pour rendre possible une chose qui serait impossible autrement. Ça explique aussi les exigences et quelquefois la sévérité qu'on trouve dans l'Écriture. Dieu n'habite pas n'importe où. Voilà. Le cœur comme un sanctuaire, le cœur comme une habitation pour Dieu, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, parce que c'est pas si naturel que ça. Voilà. Envisager notre cœur comme une habitation dans laquelle Dieu désire habiter. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est dans le cœur que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans notre cœur que sont déposées, qu'est déposée la révélation de Dieu, que Christ même désire faire son habitation. Donc voilà, mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà une parole du livre des Proverbes. Et je cite cette parole de l'apôtre Jacques aussi, une parole un peu énigmatique que les traducteurs ont eu de la peine à traduire, me semble-t-il. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » Et là, on voit que Dieu vraiment est épris du lieu qu'il désire habiter, et ce lieu, c'est notre cœur. C'est un lieu que Dieu désire. Je voulais vous rappeler en quelques lignes, en quelques mots, l'importance du cœur. Ensuite vient la maison. Dans ton cœur, tu en parleras, tu seras dans ta maison. Je rappelle qu'à la Pâque en Égypte, c'est sur le linteau des portes des maisons que le sang de l'agneau a été posé. Ça paraît étonnant aujourd'hui, mais l'importance de la maison. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient sous la protection du sang de l'agneau qui avait été immolé. Le texte ne le dit pas, mais j'imagine que on peut l'imaginer, me semble-t-il. Si un Égyptien avait dit à ce moment-là, laissez-moi rentrer dans votre maison, il aurait été préservé. Vous voyez, comme Rahab était préservé. Si un Hébreu avait dit, moi, je me moque de cela, il n'aurait pas été au bénéfice du sang. Donc, le linteau d'une porte, on pourrait dire, ce n'est pas très spirituel, mais c'est là que le sang de l'agneau est posé, et ça nous montre l'importance des maisons aux yeux de Dieu et dans la manière avec laquelle le peuple de Dieu va se façonner. Je rappelle aussi cette parole bien connue, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Donc, « moi », c'est d'abord... Moi, pour donner l'exemple, normalement, on devrait dire ma maison et moi, mais moi et ma maison, ça veut dire moi d'abord. Alors, chacun dans la maison pourrait dire ça, finalement. Hein. C'est moi d'abord, voilà, comme serviteur, et la maison tout entière. Voilà la leçon que je vais tenter de transmettre pendant ce moment et demain, qui s'est forgée au cours de mon ministère pastoral. Ce qui se vit dans les maisons influence nécessairement et fortement ce qui se vit dans l'Église. Enfin, le point sur lequel il faudrait pas qu'on passe trop rapidement parce que c'est le point crucial quelque part. Voilà. Ce qui se vit dans les maisons influence nécessairement et fortement ce qui se vit dans l'Église, plus que l'inverse. Alors, c'est un peu... Ce qui se vit dans l'Église, j'espère, influence ce qui se passe dans les maisons aussi. Hein. Oui, on va dire oui. Mais l'inverse est également vrai. En d'autres termes, une église peut avoir un excellent enseignement sans que cela transforme, comme il le faudrait, la manière de vivre. C'est un défi pour les enseignants, pour les prédicateurs, mais malheureusement, on le constate plus qu'on l'aimerait. Par contre, tout problème non réglé dans une maison, heureusement, toute bénédiction aussi vécue dans une maison, se répercute dans la vie de l'Église. Et beaucoup de problèmes dans l'Église qui demeurent difficiles à régler, malgré les prédications, malgré les temps de prière, malgré les rencontres, ont pour origine, souvent, des difficultés qui ne sont pas réglées au niveau de l'Église. Or, les maisons sont des lieux difficiles d'accès, malheureusement, souvent. Jésus parle des maisons, il en parle dès le début du sermon sur la montagne, Matthieu 6:6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu qui est là. C'est marqué comme ça, hein, qui est là dans le secret, et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Et donc on voit que notre Dieu est un Dieu d'intimité, la chambre est un lieu d'intimité, qu'on soit marié ou pas d'ailleurs. Et donc la cuisine est importante, la salle à manger est importante, mais Dieu parle de la chambre. Voilà, cela nous parle du cœur aussi, c'est le lieu où on n'a pas à paraître devant les autres, c'est le lieu du rendez-vous, comme entre un fiancé et sa fiancée, hein, voilà, c'est Dieu est là, c'est là que se va se vivre la rencontre. Jean Calvin écrit que la maison d'un chrétien devrait être gouvernée comme une petite église. En disant cela, il ne veut pas dire qu'on doit lire la Bible et chanter des cantiques du matin au soir, mais qu'on doit chercher ce qui plaît à Dieu, comme je l'ai déjà dit. Vous avez appris de moi comment vous conduire et plaire à Dieu, dit Paul aux Thessaloniciens. Gouverner sa maison comme une petite église, gouverner, c'est tenir un gouvernail. Hein. Et Calvin, je pense, entend par là que les parents, dans la maison, ont un ministère comme des pasteurs. Et qu'à ce titre, ils doivent donner l'exemple. Et ça signifie que les enfants doivent écouter comme des disciples, qui doivent aussi être écoutés, que parents et enfants doivent être prêts à se demander pardon mutuellement, et que dans la maison va se développer un esprit de service. Maman, tu es fatiguée, est-ce que je peux t'aider? Comme pour le Seigneur, faites-le comme pour le Seigneur. Vous voyez, donc c'est pas que à l'église, c'est à la maison aussi. Et peut-être c'est à la maison d'abord. Si c'est fait à la maison, c'est gagné. Au temps de Calvin, je n'y étais pas, mais on dit que la prédication publique, tous les jours, Calvin prêchait, la prédication publique était suivie de ce qu'on appelait alors la prédication privée, c'est-à-dire que les anciens allaient dans les maisons aider à mettre en pratique l'enseignement qui avait été donné. Ce qu'on appelle la discipline pastorale. Le mot discipline aujourd'hui a pris une connotation négative, c'est-à-dire simplement réprimander ou avertir ou punir. Mais là, la discipline aidait simplement à faire des disciples. Est-ce que vous avez compris ce qui a été dit? Comment le mettre en pratique maintenant dans votre maison? Souvent, les pasteurs constatent qu'on les appelle quand les situations difficiles se sont installées et quand elles sont devenues presque impossibles à rattraper. Un peu comme si on appelait les pompiers quand la maison a brûlé presque entièrement. On dit, pompiers, venez vite, on a fait ce qu'on a pu, mais maintenant on n'y arrive pas. Alors que la maison, on pourrait dire, c'est le lieu de la pastorale préventive. C'est-à-dire, c'est le lieu où on agit, où on dit, avant que les situations se présentent. C'est-à-dire, on informe l'enfant, tu sais, voilà pourquoi on fait cela. Quand tu seras grand, tu découvriras que commence à y réfléchir maintenant. Voilà. La pastorale préventive, c'est celle qui porte le meilleur fruit quand même. Hein. C'est mieux que la pastorale pompier. Et la maison est le lieu pour ça. Donc quand je dis d'abord la maison, je ne dis pas que la maison est plus importante que l'église, mais je dis que c'est par la maison que les choses devraient commencer. Et l'apôtre Paul le dit quand même très clairement, si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est curieux d'ailleurs que les deux verbes soient différents, hein, diriger et prendre soin. Il faut réfléchir à ça. Diriger sa maison, ben c'est donner la direction. Hein. Ça comprend prendre soin, bien sûr. Voilà. Là, il parle pour les anciens, si quelqu'un désire être ancien. Mais les anciens sont des modèles. Donc, ce qui est vrai pour les anciens, c'est vrai pour tout le monde. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était difficile, notamment pour les pasteurs ou pour les anciens, d'accéder au vécu dans les maisons. Je ne sais pas si c'était comme ça autrefois, mais je constate que c'est comme cela aujourd'hui. Peut-être à cause de cette notion de vie privée, vous savez, vie publique, vie privée. Donc la vie publique, tout le monde a le droit de voir ce qui se passe. Pas de cravate, mais on se coiffe, on est correct, on sourit. Et puis à la maison, quelquefois, c'est tout autre chose. Je le dis comme ça, hein. En fait, tu connais personne ici, donc je peux parler librement quand même, hein. Voilà. Quelquefois, à la maison, c'est tout autre chose. Je crois que c'est Maurice Ray qui disait, vous voulez me connaître, demandez à mon épouse. Voilà. Il disait ça simplement. Et une fois, je l'ai entendu dire, quelquefois, je suis un ours et j'ai fait pleurer mon épouse. Et il disait, il n'était pas fier de dire ça. Et donc ça, à l'église, ça se voyait pas, mais à la maison, ça se voyait. Voilà, demandez à mon épouse. Et l'épouse peut dire, demandez à mon mari, bien sûr. On se souvient que lors de la conquête de Canaan, le peuple d'Israël, un jour, a connu une défaite. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que quelqu'un avait en cachette caché des choses qu'il ne fallait pas cacher sous le tapis de sa tente, et personne ne le savait. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, une personne en secret transgresse un commandement de l'Éternel. L'Éternel avait dit, vous ne toucherez pas à ces choses, elles sont dévouées par interdit. Et lui, il a dit quand même, un beau manteau, une belle pièce d'or, c'est pas possible de détruire cela, donc je vais le cacher. Mais en le cachant, ça fait de mal à personne. Mais le peuple perd la bataille. Et donc, Josué dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, il y a l'interdit dans le camp. Mais où? Dans cette tribu, ou dans cette famille, ou dans cette tente, sous le tapis de la tente. Et donc, je déduis de cela que ce qui se passe dans une maison, même si personne n'en sait rien, affecte ce qui se passe dans la communauté tout entière, en termes de rayonnement, en termes de bénédiction, en termes de témoignage, en termes d'avancement, en termes de victoire, en termes d'exaucement. Moi, si j'entends quelqu'un me dire ça, ça me reprend. Je peux vous dire, hein, forcément. Voilà. Donc, là, je le dis comme cela. Ce qui se passe dans la maison, même si personne n'en sait rien, en bien ou en mal, d'ailleurs, affecte l'Église tout entière, en bien ou en mal. Lorsque Jésus arrive dans la ville où habitait Zachée, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et donc nous, on aurait dit dans ton cœur ou dans ta vie, mais Jésus dit dans ta maison. Et à la fin du passage, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et donc tout ça nous dit quand même que la maison pour le Seigneur est un lieu important, depuis l'Ancien Testament jusqu'au temps de Jésus. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement aujourd'hui, quelle que soit la maison. Quelle que soit sa taille, sa grandeur, etc. Ça peut être une tente, un mobilhome, peu importe, un château, pourquoi pas. Et quel que soit le format de la famille qui y habite. Alors quelqu'un dira, ah oui, mais moi j'habite tout seul dans ma maison. Eh bien c'est pareil. Parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls dans leur maison. Moi je suis tout seul dans ma maison. Donc j'ai plus d'enfants, j'ai pas de famille, donc je ne suis pas concerné. Concerné pareil que tout le monde. Qu'on soit seul, à 2, à 3, à 12, ça ne change rien. Ce qui se passe dans la maison sera en gain ou en perte pour la vie de l'Église, même si personne n'en sait rien. je crois, délivrer là une clé de la vie du disciple et de la vie de l'Église, par un biais qui n'est pas si souvent que ça rappelé, me semble-t-il. L'Église n'est pas située à côté des maisons, elle est le prolongement de ce qui se vit dans les maisons. En disant cela, je parle de la cohérence de la vie chrétienne, vous voyez. On n'a pas un comportement ici, un autre comportement là. On pourrait parler du milieu professionnel aussi. Le milieu professionnel impose une forte pression sur le comportement. Je me demande si tous les pasteurs en sont conscients, hein, quand on rejoint une équipe de travail sur un chantier, même dans une école, même dans un hôpital, même dans peu importe où, il y a une pression. Et donc, pour faire partie du groupe, on peut être tenté de s'assimiler à ce groupe dans sa manière d'être, dans sa manière de se tenir, dans sa manière de parler. Pourquoi pas? Est-ce que le Seigneur est d'accord? Voilà. Où est la cohérence entre la prière du matin, la prière du soir, et puis ce qu'on va vivre entre les deux, entre le lundi et entre le dimanche midi et le dimanche prochain 9h30 ou 10h? Voilà, c'est une grande question, n'est-ce pas? Et à coup sûr, le Seigneur est sensible à cela, et à coup sûr, la maturité chrétienne est en cause, est en jeu. Quelquefois, je dis, mais peut-être que je vais trop loin, vous me direz après tout à l'heure, hein, est-ce qu'on peut vraiment prier au temple ou dans la salle de culte, chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu, si on ne l'a pas d'abord fait dans sa maison? Est-ce que vous chantez des cantiques dans votre maison? Eh bien, là j'extrapole un peu, hein, mais on peut le faire, on est entre nous, hein, enfin, c'est enregistré, mais tant pis. Vous ne croyez pas que si chacun chantait des cantiques dans sa maison, les cantiques le dimanche seraient chantés autrement? J'ai l'impression que oui. Oui, et ça, en tout cas, ça relierait la maison et l'église. Parce que si je chante que à l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas important les autres jours, mais est-ce que c'est pas important de chanter des cantiques? Est-ce que ça remplit pas l'espace? Est-ce que ça n'édifie pas le cœur? Est-ce que ça ne lie pas les membres de l'église les uns aux autres quand on chante des cantiques, même si on est tout seul? Mais c'est sûr que oui. Moi, comme aumônier, vous voyez, je visite, non pas des maisons, mais des chambres. Donc, vous voyez, la chambre, je n'ai pas, j'ai beaucoup de chance, hein. Là où je suis, il n'y a que des chambres. Ferme la porte. Si je chante un cantique avec une personne âgée, je la mets en communion avec toute l'église. Même toute l'église depuis la réforme. C'est le but de l'aumônerie d'ailleurs. Vous voyez, que la personne ne se sente pas isolée en disant, le Seigneur m'a abandonné et les frères m'oublient. Pas du tout, regardez, je suis là. Je ne suis pas là tout seul. C'est l'église qui vient au travers de son serviteur, vous voyez. Donc on va chanter un cantique ensemble, mais on n'est que deux, et alors? Voilà. L'écoute. C'est pas facile d'écouter les autres, hein, toujours. Le respect, l'obéissance, le pardon, où cela va-t-il s'apprendre si ce n'est d'abord dans la maison? La responsabilité, la générosité, l'hospitalité, où cela va-t-il s'exercer d'abord si ce n'est pas dans, si ce n'est dans les maisons? Les dons reçus de Dieu, le devoir partagé, le souci des autres, l'esprit de service, où cela va-t-il se développer en premier si ce n'est dans la maison? Pas seulement dans la maison, mais d'abord dans la maison. Et si j'habite tout seul dans ma maison, pareil. Parce que si je suis tout seul dans cette maison, j'ai des choses à vivre. Le pardon, par exemple. Le pardon se décide d'abord tout seul. Je vais lui demander pardon. On ne fait pas ça devant un micro. On fait ça tout seul. Voilà, je prends la décision de lui pardonner. Ou de lui demander pardon. C'est presque la victoire. Après, il suffit d'aller voir la personne, de dire, eh bien, écoute, voilà, je te demande pardon maintenant. J'ai pris la décision chez moi ce matin. Donc voilà, qu'on soit seul ou en famille, ça ne change pas ce principe que je propose cet après-midi. Ce qui se passe dans la maison aura une répercussion nécessairement en négatif ou en positif dans la vie de la communauté. Ça veut dire pour tous mes frères et sœurs. Et même ceux qui viendront se rendront compte de quelque chose. C'est d'abord dans la maison. Mon troisième point, il y a quatre points, donc on avance, c'est bien. La maison est un lieu saint. On n'y pense pas assez, hein. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul parle de quelqu'un dont le conjoint n'est pas chrétien. Il dit, il est sanctifié. C'est étonnant quand même. Et il dit, vos enfants sont saints. Il dit pas sauvés, mais il dit saints. C'est pas rien. C'est pas rien quand même, hein. Je ne sais pas si on comprend tout ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûr de comprendre moi-même tout ce que ça veut dire. Le conjoint est sanctifié tant qu'il accepte de vivre avec le chrétien. Et les enfants, probablement, tant qu'ils acceptent de vivre aussi sous ce toit-là. Quand je dis la maison, ce n'est pas seulement le mur et les toits, bien sûr. Hein. Le mur et le toit, c'est le lieu de vie. Israël est appelé la maison d'Israël, Beth Israël. Et la maison d'Israël et les maisons en Israël comprenaient d'ailleurs les serviteurs et les servantes. Donc vous voyez, c'est un sens assez large. Et même les étrangers de passage. Et là, les étrangers de passage, si je transpose avec aujourd'hui, c'est pas les immigrés pour des raisons politiques, c'est les personnes qui choisissent de venir habiter là où le nom de Dieu est invoqué. Donc quelqu'un qui s'approche volontairement de la maison d'un chrétien. C'est un étranger accueilli, qui a, tant qu'il est là, on pourrait dire, des droits et des devoirs comparables à ceux de la maison. Il est comme sous un parapluie ou comme sur un lieu béni. Tout ce qu'on fait à un chrétien, on le fait à Christ. C'est étonnant, ce sont des paroles étonnantes tout cela. Hein. Tout ce que vous m'avez fait, c'est à moi que vous... Vous avez fait à l'un de ses frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, vous voyez, l'attitude que l'on a vis-à-vis d'un chrétien, je pense aux voisins ou aux voisines, par exemple. Ce n'est pas rien, ce n'est pas juste du social. C'est un rapport avec la piété. On voit des traces de cela tout au long de l'Écriture. On pourra y revenir si vous voulez. Notamment demain après-midi, hein, où il sera question justement de... répercussions, l'écho de cela vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Personne ne peut diriger le pays, la ville ou même la rue, mais nous devons diriger, c'est-à-dire donner la direction à notre maison, de telle sorte que Dieu y soit honoré. Je vous donne un exemple. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, Pierre dit, Marie, ayez un comportement, comment il dit, respectueux vis-à-vis de vos épouses, comme étant des êtres plus vulnérables, je dirais comme cela, qu'on peut bousculer plus facilement, dit le texte grec. Voilà. N'oubliez pas qu'elles sont héritières avec vous de la vie éternelle. Donc, vous voyez, dans un même passage, il dit à la fois la différence et l'égalité. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est trop beau. Il fait ça plusieurs fois, Paul, hein. Attention, elles sont plus vulnérables, mais elles ont la même espérance que vous. Donc, attention comment vous agissez avec elles. Ce n'est pas que du social. Il dit, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Comment vous n'avez pas pensé à ça? Quel rapport avec la prière? Ben, il semble que pour le Seigneur, il y a un rapport avec la prière, vous voyez? Et donc, vous voyez comme le vécu qui ne regarde personne d'autre que les conjoints concernés a une répercussion sur la prière, sur l'accès à Dieu, sur le regard favorable que Dieu peut poser. En fait, c'est le cœur qui est concerné. C'est le cœur qui est concerné. On a un Dieu des cœurs, n'est-ce pas? Mais le cœur se manifeste par le comportement, par l'attitude, notamment dans le couple quand on est marié, pas seulement, mais c'est un lieu quand même tout à fait sensible et particulier sur lequel Dieu a un regard plus qu'attentif, on pourrait dire. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières secrètes, les prières avec les autres, ça touche à l'hypocrisie, ça touche au mensonge, ça touche à beaucoup de choses, n'est-ce pas? À la posture. Voilà un exemple en un verset qui montre le lien entre ce qui semble ne regarder que nous et puis ce qui concerne le peuple de Dieu tout entier. Voilà. Nos maisons sont transparentes pour Dieu, toute obéissance à la maison, tout pardon accordé ou reçu, toute victoire remportée portera du fruit à l'extérieur, malheureusement toute défaite aussi. Je remarque que l'expression « diriger sa maison » concerne aussi les femmes. C'est-à-dire, voilà, c'est à l'homme de diriger. Paul dit dans 1 Corinthiens que les dames âgées apprennent aux jeunes dames à bien diriger leur maison. Donc, vous voyez, elles ne sont pas là qu'à regarder, on le sait bien. Hein, on le sait bien, mais c'était bien de le rappeler. Le livre des Proverbes aussi rappelle que la femme sage bâtit sa maison. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle fait tourner la bétonnière, hein, vous y connaissez, hein. C'est venu tout seul, ce mot. Mais bon, il ne s'agit pas de bétonnière, hein, il s'agit de faire de la maison une maison qui va traverser les tourmentes et qui va tenir le coup. Même quand c'est dur. Mon dernier point, et après, j'espère qu'on pourra avoir un échange libre et utile entre nous, la maison comme un lieu de repos. Parce que, en ayant rappelé ce que j'ai rappelé, on pourrait penser qu'il y a une dimension de crainte et même de découragement qui s'instaure en disant, bon, mais voilà, on n'y est pas arrivé. C'est bien beau, c'est écrit comme ça, mais il faudra repasser, quoi. Vous repasserez une autre fois, parce que pour le moment, ça ne va pas. C'est pas le but, n'est-ce pas? C'est pas le but. Et donc là, j'ai à cœur de rappeler que la vie chrétienne commence par un repos et non pas par des performances à honorer, n'est-ce pas? Voilà, c'est d'abord un repos, et c'est dans le repos de la foi, c'est dans le repos de la foi que nous puisons la capacité de répondre à l'attente du Seigneur. Si on oublie cela, on se met sous une loi, on se met sous un perfectionnisme, et le perfectionnisme est une maladie spirituelle qui rend malheureux celui qui est perfectionniste et aussi ceux qui sont autour de lui. Donc, il ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense important de rappeler que la maison est un lieu de repos. Qui est contre? Je pense que personne n'est contre. Et la vie chrétienne commence aussi par un repos. Donc, si vous vous souvenez, quand vous êtes devenu chrétien, pour certains il y a très longtemps, normalement vous avez ressenti un très grand repos à ce moment-là. Franchement. Et ce repos, on le garde ou on le perd. Hein, et on le perd et on le retrouve, et on le repère et on le retrouve. Voilà, je pense que vous me comprenez. Mais nous n'oublions pas le repos de la foi, parce que c'est de là que nous puisons la capacité de répondre à l'appel de Dieu. Sinon, ça va sentir la transpiration, ça ne sentira pas la grâce. Je pense aux paroles de Paul à Timothée, hein, « Mon enfant, puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voilà. Puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Vous imaginez une force qui puise dans la grâce. La force peut puiser dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Qui ne sont pas de l'ordre de la grâce. Une force qui puise de la grâce, eh bien, ça fait envie. Franchement, ça fait envie. Moi, ça me fait beaucoup envie. Jésus a dit un jour à ses disciples, « Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Vous voyez, il ne vient pas d'abord pour inspecter si tout est nickel, il dit d'abord la paix sur cette maison. Quand Paul écrit aux églises, il dit « Grâce et paix soient avec vous ». Même aux Corinthiens, il le dit. Même aux Corinthiens. Il dit « Voilà, je vous chéris avec la tendresse de Christ. » Voilà. « Grâce et paix ». Donc, on commence par la paix, et si on la perd, on essaye de la retrouver rapidement. Pas toujours facile, parce que ça passe souvent par la case humiliation. La case humiliation. Vous voyez, dans le jeu de loi, il y a des cases. Eh bien, il y a une case qui s'appelle humiliation, et il faut y repasser plusieurs fois. Et c'est pas évident. Et selon les caractères, n'est-ce pas, pour un mari, dire à son épouse, pardonne-moi, j'ai mal agi. C'est pas facile. Parce qu'il y a l'impression d'échoir de sa posture, qu'elle va en profiter, qu'elle va lui reprocher encore. Non, je te demande pardon. C'est une manière de retrouver le repos. Et donc, c'est dans les maisons, probablement, qu'il faut le vivre en premier, avec les enfants, entre enfants. Vous voyez, quand il n'y a pas de pardon, la chose n'est pas réglée, même si on n'en parle plus. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais enfin, on peut en parler quand même, vous voyez. 30 ans après, la chose doit encore être mise en règle si elle n'a pas été mise auparavant. S'il n'y a pas de pardon, le temps recouvre de feuilles mortes, de poussière, mais ne règle pas le problème. Et donc ce problème est là, latent, invisible, mais présent dans tout ce qui se passe. Ah, je t'avais bien dit que tu avais fait ça. Ah, mais je ne me rappelle pas. Mais moi, je me rappelle. Et clac. Et ça a pollué, vous voyez, alors qu'on n'y pensait plus. Des relations et tout un vécu. Et on dit, mais pourquoi je ne suis pas dans la paix? Pourquoi je ne suis pas dans le repos? Comment vont nos maisons? Et donc, ce que je voudrais dire là, sur ce point, c'est que le repos est la conséquence. Je vais articuler le repos et la prière. Le repos est la conséquence de la prière. Mais le repos est aussi une condition pour la prière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je prie, je vais retrouver le repos que j'ai perdu peut-être. Et pour vraiment prier, il faut déjà être dans le repos. Si je suis tracassé, comment je prie? Si je suis en bataille, comment je prie? Si je suis en train de résister, si je suis en train de nier quelque chose que je ne veux pas entendre, si quelqu'un m'en veut et je dis « ça, c'est trop difficile, on ne m'en parle plus », comment je vais prier à partir de maintenant, voyez? Et donc, le repos est bien une conséquence de la démarche de foi, mais il est aussi une condition pour la démarche de foi. Le repos va ponctuer un temps de prière, mais le repos va aussi permettre à un temps de prière de rentrer dans sa vraie dimension. Et là, la maison est un lieu qui compte énormément, bien sûr. Pas que la maison, mais d'abord la maison. Je pense souvent à cette parole de Naomi à ses deux belles-filles. Vous vous souvenez, Naomi a perdu son mari. Et voilà une maison où il n'y a plus de mari. Les deux belles-filles perdent chacune leur mari. On peut dire, zut, alors quand même, c'est trop dur. Hein. Et un jour, Naomi dit à ses belles-filles, « Je n'ai plus de mari pour vous donner maintenant. Allez votre chemin et peut-être... Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari ?» C'est quand même très beau, cela. Hein? Peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. Donc j'en conclus que la vocation d'un mari, c'est que son épouse trouve du repos dans cette maison. Pour devenir paresseuse, bien sûr que non. Mais pour puiser son énergie, sa force, dans un repos. Sinon, elle va le puiser où ? Et donc là, l'épouse dans la maison, c'est l'Église par rapport à Jésus quand même. Je ne l'invente pas cela, n'est-ce pas? Voilà. Et donc une Église qui trouve son repos, eh bien, elle va rentrer dans des œuvres que Dieu a préparées plus facilement qu'une Église qui est dans l'inquiétude, dans le tourment et dans l'effort permanent. Ce n'est pas une invitation à la paresse, hein. C'est une invitation au repos de la foi, qui permet de pratiquer les œuvres de la foi. Donc c'est vrai pour l'Église, l'épouse de Christ quand même, mais c'est vrai pour l'épouse dans une maison, n'est-ce pas? Et le mari est un peu garant de cela, il n'est pas tout seul garant, mais il est un peu garant de cela. Est-ce que son épouse est dans un repos? Voilà. Est-ce que son sommeil est doux? Est-ce qu'elle peut faire confiance absolument dans son mari, en sachant que s'il se trompe, il va le reconnaître promptement? Quand vous riez. Ah, promptement, c'est important. Promptement, c'est important. Moi, je le dis souvent, il n'y a pas d'urgence. Il ne faut pas agir dans l'urgence, parce que dans l'urgence, on ajoute des bêtises. Mais promptement, oui. Parce que sinon, on va expliquer au Seigneur qu'on a besoin d'un délai, mais ça va aller jusqu'à quand, ça, hein? Donc, promptement, c'est important, frères et sœurs. Appelez-vous-en. Et voilà. Moi-même, je me souviens de périodes difficiles avec mon épouse qui ont duré 2-3 jours, mais 2-3 jours, ça paraissait une éternité, c'était trop, quoi. C'est difficile quand on s'est fait de la peine de retrouver le chemin. Souvent, c'est l'épouse qui trouve le chemin, je remarque. Mais peut-être pas toujours, hein. Vous voulez dire quelque chose?
Non.
Je crois que vous levez la main. Tout à l'heure. Voilà. Deux conditions pour garder ce repos de la foi, la relation avec le Seigneur, la relation avec les frères, c'est une condition, être en paix avec le Seigneur, avec les frères, et se préserver se préserver des souillures du monde. Bon, ça, vous le savez, hein. Non pas sortir du monde, parce que Jésus n'a pas prié pour que nous sortions du monde, hein, mais pour que nous soyons préservés. C'est un programme quand même, hein. C'est un programme. J'ai participé à un séminaire cet été, j'étais orateur dans un séminaire avec d'autres sur le numérique cet été. Comment utiliser les écrans avant qu'il soit trop tard. On n'a eu que 12 inscrits. Je pense que c'était déjà trop tard. C'est fou quand même, hein. Voilà. Comment gérer les écrans? Comment gérer les écrans pour que la maison reste un lieu préservé? Franchement, ben c'est tout un programme, frères et sœurs. Et là, je pense que beaucoup se considèrent déjà que la partie est perdue. Il faudrait pas. Donc j'ai mis en annexe deux textes là sur ce sujet, dont on peut parler si vous voulez tout à l'heure. Quand nos enfants reviennent de l'école, ou nos petits-enfants, hein, voilà, quand nos petits-enfants reviennent de l'école, ils en reviennent avec des choses qu'on n'avait pas prévues, du vocabulaire, des manières de faire, des postures, des... Voilà. On peut dire à l'enfant, pas dans cette maison. On peut le dire, hein. Pas dans cette maison. Dehors, normalement, non plus, mais en tout cas pas ici. C'est important, vous voyez. Je pense à une maman qui disait, quand un enfant s'était mal comporté, tu vas dans ta chambre, tu réfléchis pendant un quart d'heure, et je viens te voir, et on va parler ensemble. Vous voyez, pour montrer que c'est sérieux. Tu vas dans ta chambre, tu réfléchis, et je viens te voir dans 10 minutes, et on en parle. C'est mieux que donner une gifle, hein. Mais voyez comment l'enfant va rentrer en lui-même et dire, mais alors, pourquoi les autres le font et moi je peux pas? Qui c'est qui se trompe? Et moi je suis où dans tout ça? On va en parler. Mais d'abord il faut réfléchir, quoi. Comprenez comment c'est important? Et si la partie est gagnée, c'est pas impossible. Ne partons pas perdus. Je pense que beaucoup de jeunes parents partent perdus. Ils partent vaincus, si vous voulez, ce que je veux dire. Voilà. Ne partons pas vaincus. Imaginez que cet enfant, il soit convaincu par ce que sa maman ou son papa va lui dire à ce moment-là. Dans la cour de l'école, il dit à ses petits camarades, oui, 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 là, non. Vous imaginez la difficulté pour un enfant de 8 ans, de 12 ans, ou de 18 ans d'ailleurs, d'agir comme cela. Oui, 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 mais là, non. Ah bon? L'enfant qui fait ça, il sauve son âme et il interpelle positivement plusieurs qui sont indécis et qui vont suivre le meneur. Ils vont le voir après, ils vont dire « Pourquoi tu as dit non ?»« Ben parce que mon papa a dit non, mais parce que Dieu n'aime pas. » On a le droit de dire ça quand même, hein, même en laïcité, frères et sœurs, hein, franchement. Voilà. « Dieu n'aime pas qu'on fasse ça, donc je ne le fais pas. » Il le dira comme ça ou il le dira autrement. Et vous imaginez, s'il y a 5 enfants comme ça dans la cour d'une école, ça change l'école. Franchement, hein, ça change l'école. Mais c'est difficile. Ça se forge à la maison, plus que le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est le fruit de tout ce qu'on a vécu dans nos maisons ensemble, en bien ou en mal. On comprend que certaines choses n'ont pas leur place dans les maisons. Paul dit que ces choses ne sont même pas nommées parmi vous. Voilà. Est-ce que c'est triste de parler comme cela? À mon avis, ce n'est pas triste. Hein. Ce n'est pas triste, hein, de parler de la maison comme d'un lieu préservé, non pas coupé, mais préservé. Ce n'est pas pour perdre, hein, c'est pour gagner. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je serais intéressé qu'on puisse échanger sur une parole qui vous a paru peut-être excessive ou difficile à comprendre ou difficile à mettre en pratique. Je n'aurai pas la réponse forcément aux questions, mais ça peut être intéressant d'en parler. Que Dieu dirige ce moment.